Allez, on démarre, mais c'est passionnant, on pourrait rester comme ça pendant une heure. Allez, la crise bancaire, évidemment. Eh oui, on se fait du mal, hein. Silicon Valley Bank et maintenant Crédit Suisse. Quelqu'un peut nous expliquer ce qui se passe d'abord. José Béros, des gérants comme vous et comme Alain, vous avez des valeurs bancaires en portefeuille? Et sinon, pourquoi?
Alors nous, structurellement, sur la partie valeur moyenne, hein, on n'est pas du tout investi sur le secteur bancaire. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que nous, on privilégie tout ce qui est société de qualité, croissance. Donc on exclut le secteur bancaire. Et puis en plus de ça,
sympa pour les banques.
Sur les petites et moyennes banques, en fait, ce sont des risques qui sont assez spécifiques.
Quand on l'a regarde, vu, hein.
Par exemple, alors même sans parler de très grandes banques, mais quand on va regarder des banques en Espagne, par exemple, ou des banques italiennes, ou dans d'autres pays, ce sont des risques qui sont beaucoup trop importants à prendre sur certaines catégories de marché, sur certaines géographies, sur certaines gestions dans ces types de banques. Et nous, voilà, on est peu ou pas du tout, en tout cas, en ce qui concerne nos fonds investis sur le secteur
Alain.
Bancaire.
Alors, j'aime pas les banques depuis très longtemps.
D'accord, pourquoi?
J'étais salarié dans une banque, peut-être. Ouais. C'est peut-être une des raisons. Mais blague à part, le problème, c'est que...
C'était une blague, ça?
Oui, c'était une blague. Okay. Non, mais j'essaie de faire... Enfin, bon, ça marche pas tout le temps. Gros volume pour faire des petites marges. Donc, généralement, pas mal de prises de risques. Parce que bah, finalement, le bilan des banques est quand même assez important. Donc ça, c'est quand même un point énorme. Pour compenser, ils se diversifient sur des métiers où ils prennent quand même du risque. Hein. Ils embourbent des portefeuilles obligataires, ils font du trading, ils font des métiers un peu annexes. Et puis ça rend les petites banques, effectivement, je suis d'accord, il y a souvent des risques spécifiques, et les grandes banques, on comprend rien au bilan. C'est-à-dire que vous gestionnez des gérants professionnels qui font ce métier-là depuis 30 ans, vous leur dites t'as compris le bilan de la banque machin, j'en fais pas parce que je comprends pas. Et puis dernier point, ça donne le dernier point, c'est souvent des problèmes de gouvernance. Donc des problèmes ESG, et puis dernier point sur le côté ESG, ils comptent pas le scope 3 sur ce qu'ils font dans leurs investissements, pétrole et gaz et compagnie, donc
ça vous gêne
pas les banques, voilà.
Anne-Sophie, si vous deviez expliquer à vos élèves la crise bancaire en moins de 2 minutes, vous leur diriez quoi? S'ils vous disent qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Je dirais crise de confiance, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Hein. Ce qui est assez intéressant, et surtout dans ces logiques de fonds, de start-up, en fait, ce sont surtout aux États-Unis, ce sont des entreprises qui ont énormément, énormément de fonds. Et donc, ils ont beaucoup, beaucoup de financement. Et donc là, ils avaient massivement investi donc, dans cette banque qui se retrouvait avec énormément, énormément de liquidités. Et donc, ce qui se passe, donc bien sûr, on peut dire et critiquer la gestion actifs passifs, dire que voilà, ils n'ont pas bien anticipé l'augmentation de l'inflation, etc. Mais surtout, on voit qu'il y a quand même un côté confiance, c'est-à-dire que tous ces gérants, même si c'est partie bien sûr de votre travail, s'appellent pour essayer d'être sur le bon coup, sur la bonne affaire. Et vous voyez que dans des micro-marchés comme ça, qui sont les start-up à forte croissance, ça va excessivement vite et vous avez vraiment un côté boule de neige qui s'enflamme. On voit qu'au début, bon, il y avait problème de 2 milliards à trouver, recapitalisation, il y avait un plan, ça aurait pu tout à fait s'arrêter là. Donc on voit qu'on n'apprend pas des erreurs du passé, et c'est très marrant que ce milieu lui-même, hein, en essayant de diffuser cette panique,
en fait,
dont c'est la spécialité, continue avec les conséquences après que ça va, puisque après c'est plus du tout gérable. Et là, je trouve que c'est un très très bon exemple par rapport à cette banque américaine.
Alors c'est intéressant parce que quand je vous ai parlé de la crise bancaire, vous êtes allé directement sur Silicon Valley Bank et ses banques, et vous avez mis Crédit Suisse, vous le mettez à part parce que pour vous,
c'est un
autre sujet.
Oui, parce que déjà en termes de volume, c'est quand même Crédit Suisse, c'est quand même beaucoup plus important. On est en Europe, on n'est pas aux États-Unis, donc c'est pas le même profil. À cette banque, bon, aux États-Unis, tu es quand même très spécialisé dans le numérique, dans un certain type de start-up, donc, ce qui est moins le cas de Crédit Suisse. Donc, à mon sens, on ne peut pas faire de parallèle à la situation américaine avec la situation européenne.
La question que les gens se posent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un danger sur leur dépôt dans une banque européenne, Denis Ferrand?
Alors déjà pas concurrence de 100 000 euros puisqu'il y a une garantie sur les dépôts, ça c'est quand même le premier principe
pas
de base.
Rassurant, ça. Ouais.
Non mais en tout cas, mais
tout
c'est quand même.
Tout le monde n'a pas 100 000 euros. Déjà, tout le monde n'a pas 100 000 euros.
Non,
sur
ce que je veux
courant.
Dire, c'est que c'est pas rassurant sur l'état de la banque, surtout qu'on sait que les fonds de défense ou les fonds de soutien n'ont pas d'argent dans leur caisse. Donc ils n'ont même pas de quoi couvrir les 100 000 euros.
En fait, tout dépend de la façon dont la banque s'est adaptée au changement de contexte fondamental. Ce qui ne s'est pas passé avec SVB, avec Silicon Valley Bank, c'est qu'elle ne s'est pas adaptée au fait que désormais il fallait rémunérer à nouveau les dépôts, parce que les marchés monétaires d'un seul coup ils rapportent beaucoup plus que ce que rapportait la mise sur un dépôt. Donc si vous avez une banque qui a oublié que le premier de ses métiers c'est de collecter des dépôts et ensuite de faire du prêt, et que donc pendant 15 ans la banque n'avait pas à se préoccuper des dépôts puisque la liquidité l'avait partout où elle voulait, donc elle a oublié une facette importante de son métier, et là les banques en fait sont ramenées à leur métier fondamental, collecter dans un premier temps pour pouvoir ensuite, ensuite reprêter. Et ces dépôts, il faut que je les rémunère, et que je les rémunère d'autant plus que les conditions de marché ont évolué. Et d'une certaine manière, ce que l'on voit, c'est la lenteur avec laquelle se sont adaptées certaines organisations face à un changement de donne qui était quand même très rapide. La vitesse de remontée des taux a été extrêmement violente.
Elle est historique ou pas?
Elle est historique, oui. Dans la, en tout cas, pour la partie courte, elle est historique. Et puis, quand même, ce désajustement actif-passif, quand on se retrouve avec une pente de courbe des taux qui est aussi importante.
Expliquez, parce que la pente de courbe des taux.
La pente de courbe des taux, donc l'écart entre la rémunération sur des échéances assez courtes, mettons jusqu'à 2 ans, et des échéances plus longues. Il y a 100 points de base d'écart entre la rémunération sur le taux à 10 ans et le taux à 3 mois. 100 points de base en moins pour le 10 ans. Et donc, vous avez...
On parle d'une courbe de taux inversée.
On parle d'une courbe de taux inversée. Donc, vous avez des fonds qui se rendent compte que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'aller se loger sur la partie courte. Et donc, ils sortent, vous avez des sorties de dépôt extrêmement importantes pour aller se placer sur des fonds monétaires qui sont très rémunérateurs. Et dans le même temps, vous constatez ces sorties de dépôt, vous, en tant que banquier. Ce que vous faites, c'est que vous devez apporter des liquidités. Et les liquidités, vous les avez uniquement placé dans des titres longs dont la valeur s'est décotée.
Juste pour réagir, ça en effet, mais c'est vrai que sur la courbe des taux, il y avait quand même une anticipation, c'est-à-dire que maintenant, les États-Unis ont commencé à augmenter les taux plus tôt qu'en Europe. C'était quand même su par le marché depuis très longtemps. Oui, là, la grande difficulté, quand on dit de confiance, c'est une banque qui, quand même, en 2 jours, a dû faire face à 40 milliards de dépôts retirés.
Oui. Est-ce qu'on a un risque? Est-ce qu'on est dans un risque systémique? C'est ça la vraie question, en fait. Est-ce que, Silicon Valley Bank, mais aussi Crédit Suisse, mais aussi, on a vu quand même, parce que c'est intéressant, parce que ce que vous dites, oui, Anne-Sophie, vous disiez Silicon Valley Bank, on parle de Crédit Suisse, c'est des problèmes spécifiques, mais derrière, la BNP a perdu 12%, Société Générale aussi en capital. Est-ce qu'il y a un risque systémique?
Alors, moi, je pense que non. En effet, Europe, États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Même aux États-Unis, vous avez vu tout de suite, vous avez la réaction de la Réserve fédérale, vous avez les autorités de régulation qui se mettent derrière, donc là, on l'a quand même appris 2008, il y a quand même des réactions qui sont rapides, très efficaces, et donc là on n'est pas dans la même configuration. Et puis en Europe, en effet, on a quand même eu beaucoup de régulations après la crise de 2008 et de 2010, donc c'est vrai que BNP, Société Générale, donc là c'est un petit peu normal, et c'est toujours cet aspect de confiance, on dit il y a un risque.
Pourquoi?
Alors forcément, parce que ce sont les plus grosses, donc c'est tout à fait normal que vous avez un risque.
Mais 12% de baisse sur une journée, c'est quand même la panique.
Vous avez aussi des journées où ça augmente beaucoup plus, donc vous savez comment c'est sur le marché, c'est brutal. Mais quand vous avez quand même un acteur, même si c'est une plus petite banque, etc., aux États-Unis, qui est dans cette situation, c'est normal que vous ayez des conséquences, parce qu'on a dit sur l'aspect, on s'appelle en dire. Mais pas de risque systémique. Et encore une fois, s'il y a un vrai risque, aujourd'hui, on a des outils qui sont beaucoup plus efficaces qu'en 2008 pour pouvoir intervenir.
Par exemple,
avec la Banque Centrale Européenne, déjà qui est le régulateur et qui même a accès à tout, et avec le fonds derrière.
Voilà,
et
ils connaissent aussi les positions.
Ils connaissent les positions.
Je dirais que j'oublie aussi dans les thèmes qui font que j'aime pas trop les banques et qui font que tout le monde a peur des problèmes systémiques, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire demain il y a une compagnie automobile qui fait faillite au Japon, c'est embêtant pour les gens qui bossent, mais on s'en fout un peu dans le reste du monde. Par contre, une banque américaine de la côte ouest, 18e banque ou 16e banque américaine, qui craque, ça peut stresser tout le monde parce que c'est interconnecté. Et comme il y a quand même un doute sur les positions, on a quand même ce stress. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est la rapidité de réaction des banques centrales, et en particulier sur ce cas-là la banque américaine, qui a avec la hausse des taux, on parlait des transitions, mais toutes ces transitions dont on parle arrivent à un moment où les taux montent, donc ça crée aussi un trouble dans le marché et dans l'économie. Et donc on a...
C'est même une des transitions.
Bien, c'est une des transitions. Ah oui, ça fait 30 ans qu'on l'était pas, quand même. Donc il y a cette hausse des taux qui fait un doute sur la solvabilité de pas mal d'acteurs, parce que ça crée ça. Et après, il y a la liquidité. Donc on injecte de la liquidité comme on fait sur First Republican Bank ou sur la Banque Suisse, au Crédit Suisse, pour les aider à passer le cap dans la période. Mais ce que je trouve qui change...
Pour faire face à ce qu'expliquait Anne-Sophie, c'est-à-dire tous ces retraits massifs dus à la perte de confiance.
Mais ce que je trouve qui est vraiment un truc qui est assez incroyable, dans quelques mois on verra si c'est vraiment aussi incroyable que ce que je pense, c'est la garantie des dépôts. C'est-à-dire qu'on change le modèle de la banque, c'est-à-dire qu'on va garantir les dépôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prêtez de l'argent à la banque quand
c'est
vous
fondamental.
Posez, mais ça, je trouve que ça change.
C'est fondamental. C'est un changement total de paradigme.
Ça socialise tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire l'État? Il va dire, je vous garantis les dépôts, mais il faut que vous ayez un actif passif, une gestion de l'actif passif qui soit comme je veux, ouais. ou bien vous n'êtes pas garanti. Donc je peux vous dire que le débat il va être vite réglé, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'elles font les banques après une fois qu'on a dit on les coince avec ça ? Vous voyez, je trouve que déjà ça a fait une distorsion entre les banques européennes et les banques américaines, je trouve, parce que les banques européennes, on n'est pas encore à la garantie totale des dépôts. Donc il y a un truc qui arrive en ce moment, je trouve que c'est quand même assez un gros changement de business.
José, un petit mot.
Ouais, après, pour continuer sur le discours, en fait, moi, un des risques qu'on peut voir aussi, ouais. c'est-à-dire que ça va aussi certainement engendrer plus de régulation, plus de lois, plus de restrictions. Et tout ceci,
mais on a envie de dire tant mieux quand on voit ce qui s'est passé avec Silicon Valley Bank où personne n'a remarqué qu'ils faisaient n'importe quoi.
Tant mieux certainement pour le secteur bancaire ou en tout cas pour certains acteurs qui étaient mal régulés ou qui prenaient trop de risques, ça c'est certain. Mais par contre, ça va créer des resserrements en termes de crédit et donc c'est ça qui risque de par contre de gripper et de contracter et de créer un ralentissement économique par contre dans les 6, 9
prochains mois. C'est un bon sujet, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a deux écoles. Il y a les écoles qui disent, compte tenu du fait qu'on réinjecte de la liquidité pour aider les banques, ça va faire remonter l'inflation et favoriser l'économie. Et ceux qui disent que la crise bancaire va avoir au contraire un effet un peu déflationniste. Vous êtes dans quel camp, Denis ?
Oui, pas tellement. Enfin, la liquidité, il y a des travaux de la Fed qui montrent que les injections de liquidité ont en total peu d'impact sur l'inflation.
Même celle pour aider les banques actuellement.
Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que spontanément, une banque face à une crise de liquidité, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de faire de la rétention de liquidité. Et la question que l'on doit se poser, qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la question de la répercussion économique.
C'est ça.
Est-ce que l'on va avoir un moment ou un autre un resserrement
des conditions de crédit ? Attention, il va y avoir des resserrements et donc ça aura un impact. Vous pensez
Exactement. Oui. En tout cas, c'est le risque. C'est le risque qui va se présenter. C'est pour ça qu'on a besoin d'une intervention qui soit massive pour préserver la liquidité à l'intérieur des banques. Parce que pourquoi cette crise de liquidité est arrivée ? C'est parce qu'on a depuis un an un assèchement complet de la liquidité dans le secteur de la tech. Il n'y a pas eu d'IPO, il n'y a pas eu d'introduction en bourse l'année dernière. Les obligations high yield à haut rendement aux États-Unis, c'était 75% en moins par rapport à 2021. Et qui est-ce qui déposait à la Silicon Valley ? Ce n'était pas des épargnants lambda. Non, c'était les boîtes de la Silicon Valley. Et donc, elles commençaient elles-mêmes à se trouver à court de liquidités. C'est pour ça qu'une petite alerte qui se vient sur la SVB, eh bien, je sors mes liquidités. Et c'est un phénomène normal, mais c'est parce que fondamentalement, il y a déjà eu un grippage du marché et il y a un retour sur l'économie réelle.
Il y a un truc qui est fou quand même, c'est que jamais les banques ont réalisé tels résultats, en particulier européennes. Elles sont au niveau historique et trois semaines après on est obligé de les aider en ajoutant des liquidités on a fait 300 milliards de liquidités supplémentaires sur le bilan de la Banque Centrale Américaine pour aider des banques qui sont avec un maximum de rentabilité. Ça veut quand même dire qu'il y a un truc dans le modèle qui est quand même assez spécial, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle qui est extrêmement fragile. Moi je pense qu'il faut quand même faire attention avec ces investissements.
L'autre problème aussi, c'est que ça porte un petit peu aux États-Unis les gens investissent plus dans le capital risque, mais là c'est vrai que c'est un type d'actif où en plus en Europe, on dit que c'est très risqué, donc on va moins dessus. Là, ça renforce de dire, regardez, c'est un secteur très spéculatif, regardez, c'est cette banque-là qui a des difficultés. Oui, donc là aussi, pour la transition vers, on va dire, les liquidités productives et qui vont vraiment à l'économie de croissance, ça peut être aussi... Alors, aux États-Unis, non, parce qu'ils vont quand même continuer d'investir, mais globalement, c'est pas un signal très positif, notamment là, pour nous, en Europe.
En fait, je pense que ce qui change aussi dans... la faillite, en tout cas, de Silicon Valley Bank. C'est-à-dire que, alors, sans excuser les erreurs qui ont été faites dans la gestion chez SVB, mais quand même, il y a aussi un élément très important à garder en tête, c'est-à-dire que c'est la crise de confiance, et pour revenir à ce que vous disiez, c'est cette crise de confiance qui a provoqué la chute de SVB. Parce qu'on aurait pu, la banque aurait pu continuer comme ça pendant encore...
2 milliards, ils avaient rachat, il y avait...
Mais c'est juste, en fait, ça a été quasiment auto-prédictif, en fait. C'est la crise de confiance qui a entraîné ces retraits massifs et donc qui a provoqué...
J'insiste vraiment là-dessus quand même, 40 milliards en 2 jours. On peut faire toutes les régulations qu'on veut, c'est quand même très compliqué pour une banque de cette taille.
Et à l'origine de ça, ce que dit Denis est vrai, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de ça encore... il y a l'explosion un peu de la bulle sur la tech, c'est-à-dire qu'elles arrivaient moins à lever d'argent, donc elles sont allées taper dans leurs réserves.
On paye aussi quelque part, alors si on peut monter encore un peu les excès de 2019, de 2020,
là, il y avait
trop d'argent, trop de cash,
explosion de la bulle,
trop de levée de fonds.
Donc on est dans ça.
Exactement.